Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
J'appelle pur moment de littérature ce qui excède le récit, le genre littéraire et même le sujet du livre. Ce que les journalistes appellent le sujet d'un livre parce qu'ils ne savent pas de quoi parle le livre. Ils n'en ont pas la moindre idée. Ils se disent que le sujet de Lolita est la pédophilie parce que la pédophilie est un sujet de société. Et ainsi transforme-t-il le sujet d'un livre en sujet de société, faute d'avoir assez d'imagination, et par parenthèse, concernant le dossier M, si on te demande son sujet, botte en touche. Fais le gogol. Balance-toi d'avant en arrière en te grattant la tête et en poussant des petits cris de singe. Oui, débrouille-toi comme tu veux, mais soutiens mordicus que tu ne sais absolument pas quel est le sujet de ce que j'écris. Ce sont vos mots, Grégoire Bouillet. Il propose une non-définition du monstre littéraire de plus de 1700 pages qui est publié sous le titre Le dossier M, en deux livres, aux éditions Flammarion. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
Est-ce que vous diriez que le dossier M a un sujet ?
Je crois qu'il est devenu son propre sujet. Je pense que c'était même... Alors c'est compliqué, j'ai envie de dire l'idée de départ, mais en fait je n'ai pas d'idée au départ. J'ai un désir, j'ai... une envie, une nécessité qui était de raconter cette histoire, mais cette histoire qui est une histoire d'amour qui se termine par le suicide de quelqu'un qui s'appelle Julien, qui n'est pas lié à l'histoire proprement dite de M, qui est le personnage féminin. Je me suis trouvé une petite métaphore que je raconte un peu partout parce qu'elle me semble assez pertinente pour décrire Cézanne. Tout le monde sait que lorsqu'il peint des pommes à compotier, le sujet du tableau, ce sont pas les pommes ni le compotier. Le sujet, c'est la peinture. Et c'est exactement la même chose pour le dossier. C'est-à-dire que le sujet, c'est le livre, en fait. Même si il y a évidemment une histoire. Peut-être la différence avec Cézanne, c'est que je pense que Cézanne n'en avait pas grand-chose à faire des pommes et du compotier, alors que moi, j'ai beaucoup à faire avec l'histoire d'amour, avec le personnage de M et avec le suicide de Julien. Donc, il y a un investissement personnel dans l'histoire, mais il n'empêche que le véritable sujet, c'est le livre. Voilà, je ne peux pas dire. Et à la fin, il y a juste, c'est qu'à la fin du livre où on peut constater que le sujet, c'est vraiment le livre. Et ça pouvait pas être postulé au départ. Je pouvais pas le dire au départ en disant le sujet, c'est le livre. J'ai aussi envie de dire que dans ce... D'abord, chacun s'invente ses propres nécessités, mais pour moi, c'en était une de raconter cette histoire, parce qu'elle me dépasse, elle m'a dépassé totalement, que ce soit dans les sentiments vécus, ou que ce soit dans les événements qui se sont produits... Moi, je voue un peu un culte aux événements qui se produisent pour de vrai, qui me semblent toujours hallucinants, enfin, qui me laissent toujours un peu effaré, et effaré dans le sens où je n'ai pas envie de les recouvrir immédiatement par, enfin, de les ranger. Vous savez, il se passe un truc qui défie un peu notre entendement, et plutôt que de laisser la porte ouverte à cet effarement, on le recouvre immédiatement on essaie de le ranger intellectuellement pour se rassurer. Et moi, j'essaye je recule le plus longtemps possible le moment où je vais recouvrir ça de façon intellectuelle, de façon à me rassurer et au contraire d'ouvrir le plus possible le moment où, enfin, de garder le plus présent possible le sentiment d'effarement qui est pour moi un moteur existentiel et littéraire. La première scène que je raconte comme ça, c'est Romeu, Jean-Pierre Romeu, qui est un rugbyman des années 70 et qui a raté de façon impensable une pénalité qui donnait le grand chelem à l'équipe de France, qui aurait été son deuxième grand chelem. Et moi, j'étais gamin, j'avais 13 ans à l'époque, je regarde ça à la télé. À la dernière minute, il y a la pénalité en face des poteaux et il la rate, et c'était impensable. Et en fait, donc la tendance immédiate, mais il est nul, Romeu, quel con et tout ça, enfin voilà. Et en fait, avant d'en arriver à cette conclusion qui permet de ranger l'événement dans ce qu'il a de plus impensable précisément, moi, j'ai le souvenir vraiment d'avoir perçu à ce moment-là quelque chose qui était de l'ordre de l'impensable et avoir eu la révélation de l'impensable. Donc, Voilà. Dans les trucs qui président aussi, il y a la volonté de ne pas faire quelque chose. C'est un peu paradoxal. Je savais que je devais raconter cette histoire, mais une fois qu'on sait qu'on doit la raconter, comment est-ce qu'on la raconte? Et moi, je fonctionne beaucoup par je veux ne pas faire quelque chose. Je veux ne pas faire. Alors, je vais prendre l'exemple bateau. Aujourd'hui, 80% de la production littéraire, c'est de l'exobiologie, on va dire. Enfin, qui
c'est-à-dire
ben, vous prenez un personnage célèbre, enfin, en tous les cas, qui a vraiment existé, puis vous racontez une fiction à partir de ce personnage célèbre. Le pré-Renaudot, c'est Mengele. Et moi, j'ai toujours envie. Enfin, je me pose toujours la question. Ça ne dit rien de la qualité des livres. Mais ça dit quelque chose du symptôme de l'époque, et qui est que si vous retirez Mengele, il reste quoi du livre? Et donc il y a quelque chose de la pipolisation. Voilà. Et alors moi je commence et je sais que je ne veux pas faire ça.
Ce serait l'idée de faire un livre qui tient tout seul?
Oui, c'est exactement ça. Qu'il tient. Voilà, il ne tient pas parce qu'il y a des personnages connus qui permettent de faire tenir un livre, parce qu'il a déjà la moitié du chemin de l'inconnu est déjà fait, comme vous parlez de Mengele ou de je sais pas, la femme de machin, etc., qui est connue, enfin, peu importe. Vous avez déjà énormément d'informations qui sont des informations hors champ, en fait, au livre. Et le livre va reposer sur ces informations hors champ. Et moi, ce que j'ai eu envie de faire, enfin, si j'interviens à un moment donné dans le genre littéraire et que je commence à écrire un livre, je prends en compte toutes ces informations-là et j'ai eu envie de mettre tout ce hors-champ de la littérature à l'intérieur du livre. Et pour voir si ça faisait quand même un livre. Alors ça fait un livre un peu monstrueux, évidemment. Mais c'était quand même l'idée de est-ce que je peux intégrer à l'intérieur d'une histoire d'amour où un type rencontre une fille, il tombe amoureux, etc. les relations sociaux déterminées des uns et des autres, elles faisant partie d'un milieu social qui fait partie des classes extrêmement supérieures et moi faisant plutôt partie de la classe bassement moyenne. Et non pas comme une toile de fond, mais comme agissant à l'intérieur de l'histoire d'amour. Il y a une page où je dis, tout le monde s'est déjà retrouvé à l'arrière d'un taxi, et après un rendez-vous amoureux où il est complètement ébloui et tout ça, il n'empêche qu'il commence à se poser la question, et par exemple, si la personne est au chômage, d'un seul coup, on n'éprouve plus les mêmes sentiments. Donc c'est quoi les sentiments si la position sociale intervient là-dedans, ou la position culturelle, ou, voilà. Et moi, j'ai introduit tous ces non-dits, généralement dans les histoires d'amour ou dans les histoires tout court, où la société est une toile de fond, mais elle n'est jamais intériorisée par les personnages au point de les faire agir de telle ou telle façon. Et moi, je l'ai intégré en disant, mais ça fait partie de l'histoire d'amour parce que ça modifie les sentiments, évidemment.
Le dossier M, c'est aussi un livre qui n'arrête pas de se poser la question, ou vous n'arrêtez pas de vous poser la question, qu'est-ce que j'écris? Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est un feuilleton? Est-ce que c'est un roman?
Oui, parce que une fois que c'est devenu un dossier. En fait, ce qui est très intéressant, c'est encore la même idée de vouloir ne pas faire quelque chose. Donc, c'est échapper aux définitions aussi, aux idées reçues. Et par exemple, le premier titre que j'avais en tête, et parce qu'il était structurant, il est structurant même dans le livre, c'est le niveau individuel des choses. C'était le premier titre que je m'étais posé, que j'avais posé, etc. Et sous-titré le dossier. Sous-entendu, ce n'était pas un roman, ce n'était pas une autofiction, c'était pas une autobiographie, c'était voilà. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'écrivais réellement un dossier. C'est-à-dire que quand j'écrivais des choses, je me suis rendu compte que c'était des pièces que je versais au dossier. Et en fait, ce dont moi j'ai pris conscience, mais je l'avais déjà intuitivement pensé, c'est que si vous commencez en vous disant que vous allez écrire un roman, en fait, le fait d'écrire un roman vous assigne un lieu d'écriture. À partir du moment où vous vous dites que, en fait, je ne sais pas ce que ça va être, et ce sera ce que ça sera à la fin, et ce que ça sera au moment, dans le temps même de l'écriture, parce que ça va inventer sa propre forme en direct. Et à un moment donné, la forme, c'est devenu un dossier. Et donc, j'ai commencé à penser que je versais des pièces au dossier. Et c'est devenu un élément narratif. C'est-à-dire que, bah, du coup, ah bah là, j'ai versé une autre pièce au dossier. Et donc, c'est le mot dossier qui m'a assigné à un lieu d'écriture. Si j'avais écrit un roman, je n'aurais jamais versé de pièce au dossier. C'est dans ce sens-là que, en fait, la définition littéraire que l'on pose avant même d'écrire assigne à un lieu d'écriture. Et moi, je ne voulais pas être assigné. Je voulais être assigné nulle part. Je voulais être libre, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais gagner en tous les cas le maximum de degrés de liberté, que ce soit en termes de propos, en termes de positionnement du livre, en termes de moi à l'intérieur du livre, en termes de format aussi, évidemment. Et voilà, parce que cette histoire m'a vraiment excédé, et elle était importante et elle m'a excédé. Donc aucun cadre n'allait, a priori, même si à la fin, ça en définit un, mais ça en définit un dans les contours, comme vous venez de le dire. Et moi-même, incapable de dire à ce moment-là, mais c'est quoi, si ce n'est, c'est un dossier.
On ne la voit pas, Béatrice, c'est bien là le problème. Il y a un très beau passage dans Le Paradis où Dante sait qu'elle est à côté de lui, il se retourne et tout d'un coup, il ne la voit plus. Il ne la voit plus parce que sa luminescence est telle.
Parce qu'il est
ébloui. Oui, mais le vers est extraordinaire parce qu'il dit, mais elle était là, elle n'est plus là. Et je crois que d'une façon générale, dès qu'on veut donner un nom à Béatrice, on ne la voit plus. Elle est une essence fuyante. Elle est l'inverse d'un fétichisme féminin en ce sens. Elle est une certaine lancinante nostalgie. Elle est la répétition, une obsession, mais elle n'est pas une présence, jamais. Dante est l'inverse d'un poète de la présence à cet égard. Alors pour comprendre quelque chose à ce mystère qui est parfaitement écrasant d'un certain point de vue, je crois qu'il faut poser quelques principes généraux. Des principes généraux qui sont des véritables programmes de vie, on peut dire. Dante est un homme qui a connu, comme je l'ai dit, plusieurs phases, parfaitement discontinues, décousues, on peut même dire, de son œuvre. Mais ce qui est à remarquer, c'est qu'il n'a jamais accompli un seul acte théorique ou un seul acte humain pratique qui n'ait été entièrement traversé par la question de l'amour. Dante, on pourrait dire, s'il fallait définir Dante vite, faudrait dire c'est cet homme qui a scellé tous ses actes à la question de l'amour. Alors déjà, on se trouve, je dirais, dans une façon de désigner l'humain qui est très spécifique et qui, je dirais, assure une immensité à Dante et une pérennité à Dante.
Grégoire Bouillet, on entend la voix de Bruno Pinchard, une archive de 1990, où il parle de la figure de Dante et de Béatrice, son amante. Et Dante revient assez souvent dans le dossier M, comme une espèce de précurseur et de poète de l'amour, disait Bruno Pinchard. C'est un des plus vieux sujets du monde. Et comment vous avez été confronté, vous, à ce caractère extrêmement archaïque du problème de l'histoire d'amour?
D'abord, c'est une histoire vécue, et je pense que ça change beaucoup de choses dans la volonté d'en parler. Je n'ai pas postulé au départ que j'allais parler de l'amour parce que ce serait un sujet immémorial, etc. Le fait que ça ait été vécu m'a engagé aujourd'hui, on a un peu le sentiment que tout le monde ricane du sentiment amoureux. C'est très rigolo, c'est très spécifique à notre époque, volontiers cynique.
Et pourquoi, à votre avis,
alors pourquoi? J'imagine qu'il y a énormément de raisons. Là, tout de suite, ce qui me vient d'abord, il y a une telle culture, c'est-à-dire qu'il y a un tel passé des histoires amoureuses que il serait de bon ton que, pour être un petit peu moins naïf, on devrait être au moins au deuxième ou au troisième degré pour pouvoir en parler. Le problème, c'est que chacun d'entre nous, j'imagine, lorsqu'il tombe amoureux, il n'est pas au deuxième ou au troisième degré. Donc, nous continuons de tomber amoureux, tous les uns les autres. Et avec peut-être en tête énormément de représentations. C'est-à-dire, le sexe n'est pas du tout regardant. Le sexe, il se fiche complètement, plus ou moins, en tous les cas, de la personne avec qui. Mais en revanche, l'amour est extrêmement regardant. On ne tombe pas amoureux de n'importe qui. Et l'une des questions que traite le livre aussi, c'est pourquoi parmi, alors moi je ne sais pas combien d'hommes ou de femmes, selon le sexe ou l'orientation sexuelle, on va dire, chacun, mais on va dire quoi, nous croisons 100 000 personnes peut-être dans notre existence, ou 25 000, j'en sais rien, peu importe. Pourquoi une personne, d'un seul coup, nous tape dans l'œil, nous tape dans l'âme, nous tape, c'est elle et, ou c'est lui, et c'est pas la personne qui est à côté. Et quand on arrive dans, avec ce sentiment amoureux, on a tendance à penser, enfin il y a une sorte de lieu commun qui serait de dire que l'amour est aveugle, mais c'est archi faux. On n'est jamais autant lucide, attentif, au moindre détail que lorsqu'on est amoureux, que lorsqu'on est sincèrement amoureux. C'est-à-dire que c'est pas juste une pulsion de désir ou une volonté de possession, c'est juste d'un seul coup, on est dans un état de... on est saisi. Voilà, on est saisi, on est à la fois possédé par l'autre et dépossédé de soi. C'est ce double mouvement qui fait que c'est une aventure existentielle majeure de tomber amoureux. Et moi, j'avais aucune raison de ricaner de ça, ou d'être cynique, ou même si l'histoire a merdé à la fin, il n'empêche que tout le temps où l'histoire a eu lieu, elle a été un grand moment existentiel dans ma vie. J'en ai connu d'autres et j'espère en connaître d'autres, mais en tous les cas, celui-ci a été un grand moment existentiel. Et je trouvais aussi rigolo, mais je le dis comme si je l'avais pensé au départ, mais non, c'était juste le sentiment que j'avais, qui était d'en parler avec le maximum de franchise et de sincérité, parce que c'est ça qui se passe, et qu'il n'y avait aucune raison d'avoir une attitude surplombante, ou une attitude cynique, ou ironique, ou évidemment ça se casse la gueule. Moi j'aime bien le livre 1, parce que évidemment ça se casse la gueule, et on le sait dès le départ, etc., mais le livre décrit énormément de joie du sentiment amoureux, et du bonheur que c'est que d'être amoureux, et du bonheur douloureux, enfin avec ses douleurs, mais enfin on est complètement exacerbé dans un état... voilà, et on voit tout. Et donc, quand on arrive dans une histoire d'amour, on est incroyablement lucide, on arrive avec tout son bagage, et un bagage culturel. Et moi, j'arrive avec ce que j'ai appris dans La Gare des Michards quand j'étais gamin, c'est-à-dire Dante, oui, Béatrice et tout ça, ce culte de la femme perdue. Et il va traverser l'enfer, le purgatoire pour la retrouver sous une autre forme au paradis, etc. Invention de la langue quand même italienne, enfin je veux dire, Dante, voilà, mais je parle aussi de Don Quichotte, je parle de Ulysse beaucoup plus que Dante d'ailleurs, enfin je veux dire, c'est très rigolo comme et Dante et Homère se renvoient la balle, où Dante place Homère dans un des cercles de l'enfer, etc. Enfin je veux dire, voilà, il y a tout un jeu, et ça c'est ma culture collégiale, lycéenne, voilà. Et évidemment, comme on est saisi par quelque chose qui nous excède, qui nous dépasse, qu'on n'en maîtrise pas quand on est amoureux, évidemment, on tire toutes les ficelles qui sont à notre disposition pour essayer de comprendre, et on tisse des parallèles. Et le parallèle avec Dante, et là où le parallèle avec Dante a été... Parce que ça n'a pas été pensé comme ça, mais là où le parallèle avec Dante, c'est que d'emblée, il y a une scène dans le livre qui me rappelle Dante et Béatrice, et il va... se trouver dans le livre 2, où on va découvrir qui était le personnage de M pour le narrateur. Et pour le narrateur, alors je vais le dire parce qu'on s'en fout de spoiler, enfin je veux dire, c'est ridicule de pas spoiler ou pas, enfin je veux dire, voilà.
Pourquoi c'est ridicule?
Parce qu'en fait ça ne gâche absolument pas le plaisir. C'est comme si le fait de savoir que les pommes sont constituées de tels organo-éléments, vous détruisez le goût de la pomme. Au contraire, d'une certaine façon, ça peut augmenter le goût que l'on peut avoir de la connaissance. Il y a une sorte de culte que l'ignorance serait bénéfique à l'intensité des sensations ou des sentiments. C'est complètement débile. Enfin, c'est prenez l'ignorance et voilà. Donc, pour moi, quand on spoil un truc, ça n'a jamais diminué mon intérêt, parce que même si je sais quelque chose, je l'intègre, et si la chose, le film, peu importe, est assez bon, et bah, ça l'augmente, en fait. Je sais ce qui va se passer, mais je vois comment ça va arriver. Voilà. Enfin, bref.
Et donc, dans le livre 2,
Livre 2, on va découvrir, et j'ai découvert en cours d'écriture, c'est ça qui est absolument fabuleux, c'est que moi-même, je ne l'avais pas pensé, mais l'histoire n'est terminée que lorsqu'elle est écrite. En fait, c'est ça que moi j'ai découvert. C'est-à-dire que on peut imaginer que l'histoire d'amour va se terminer une fois que la personne qu'on aimait est partie, ou voilà. Ou une fois que ce que l'on investit sur cette personne, c'est-à-dire l'histoire elle-même, au-delà de cette personne, c'est-à-dire que cette personne, à un moment donné, on n'y pense plus, on n'a plus rien à foutre. Il n'empêche que tout ce que l'on investit de bonheur sur cette personne ou sur cette histoire, ça, on le paye cher aussi. Donc ça recule encore le moment. Donc c'est pas tant la personne, c'est pas même pas l'histoire. C'est une fois qu'elle est écrite Et là, vous découvrez ce qui la sous-tendait. Et par exemple, le personnage de M, j'ai découvert en écrivant le livre 2, et je ne le savais pas avant, que, en fait, et toute l'histoire, et tout le livre lui-même tourne autour de ça, de façon inconsciente, est lié à une jeune fille que j'ai aimée quand j'avais 13 ans, 14 ans.
Qui s'appelait Béatrice.
Et moi-même, quand j'écris ça, je parle de mes petits orgasmes au-dessus de la ceinture, dans l'écriture. Et là, je tombe sur le cul. C'est-à-dire que je découvre la clé, voilà. Et là, ce qui m'amusait, c'est, je parle aussi de Flaubert, enfin, et de Madame Arnoux, et
de l'éducation sentimentale,
et de la rue Tronchet, enfin voilà, du Graveleux dissimulé sous ce terme et tout ça. Et il se passe quelque chose dans les livres rue Tronchet, comme par hasard. Et le livre 2, évidemment, j'aurais pu m'arrêter le livre 1, c'est-à-dire que l'histoire est finie, etc. Mais il y a quand même eu le suicide de quelqu'un et la connexion avec l'histoire n'est pas. Et j'insiste un petit peu au début du livre 2 pour dire, bah, alors à la fin des histoires d'amour, donc notamment pour Frédéric et Madame Arnoux, bah, Flaubert termine en disant, bah, il connut d'autres amours et la mélancolie des paquebots. Et fuck you. C'est quoi la mélancolie des paquebots? C'est quoi les autres amours? Et moi j'étais, c'était rigolo parce que j'avais décidé, j'étais dans l'écriture du livre 2. Et j'entendais, je tombe sur une émission de radio et il y avait deux, je me souviens plus, enfin si je me souviens mais on s'en fout, parce que c'est pas les noms qui sont importants, mais il y avait deux éminents intellectuels qui dissertaient sur je sais plus quel livre par ailleurs. Et où ils disaient, bah c'est vrai que nous aimons une fois dans notre vie et puis après toutes les autres femmes que nous avons aimées valent que dalle. Et ça m'a offusqué. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Moi, je ne serais pas là si j'avais pas aimé les autres femmes après le M, évidemment. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, ce sont d'autres amours. Et la nature de ces autres amours méritait, à un moment donné, de leur rendre hommage. Et donc, c'est ce que je fais dans le livre 2. Et chemin faisant, je retombe sur mes pattes, je retombe sur le personnage de M, sur un lien qui se fait et qui ouvre la boîte aux souvenirs, qui lève, à un moment donné, le mystère de M, avec cette figure venue de mon adolescence et qui s'appelle Béatrice. Et d'où l'intérêt d'aller au-delà de la fin de l'histoire sentimentale. Parce que, en fait, il n'y a pas que les sentiments dans l'histoire. Et moi, j'aurais été ravi que Flaubert continue, parce qu'on aurait su qui était Madame Arnoux pour Frédéric. Parce que...
C'est les amours d'après qui révèlent l'amour d'avant.
Ben, qui à un moment donné, vont nous faire tout le tour, toute une circumnavigation pour arriver à ce point-là où l'histoire s'élucide. Mais tant qu'elle n'est pas écrite, elle ne peut pas être élucidée. Il faut qu'elle soit écrite pour que sa résolution apparaisse. Et c'était ça qui était très... C'est pour ça que moi j'ai vécu, c'est pas juste un livre, enfin c'est juste un livre, évidemment c'est juste un livre, mais pour moi c'était aussi une aventure intellectuelle et existentielle de découvrir que tout ce que j'avais vécu tenait pour bonne partie à ça, à un amour d'enfance que je ne voyais que je n'avais absolument pas discerné dans le temps même où je vivais les choses. Il y a un paragraphe que moi j'aime bien, c'est qui sommes-nous, les uns et les autres, pour exiger que nous soyons aimés, alors que nous sommes tous mortels, on tombe tous du vagin d'une femme, et que si chacun se regardait lui-même, qui voudrait de soi s'il se rencontrait, sachant ce qu'il sait sur lui, sachant tout ce qu'il sait sur son compte. Cela pour dire que il faut qu'on y mette un peu, beaucoup, énormément, ou à la folie du sien pour aimer quelqu'un d'autre. Et ce un peu, beaucoup à la folie, c'était une figure du passé. Et dans ce sens-là, Béatrice a été un élément parfait, parce qu'au moment du livre 1 où je parle de Béatrice, je n'ai absolument pas conscience que ce petit nom de Béatrice était en fait exactement le nom qu'il fallait, parce qu'il résout l'histoire de l'histoire de M pour de vrai.
SMS du 30 novembre, 20h06. J'ai lu votre lettre, je voudrais vous parler. 30 novembre, 21h39. Je sais que vous ne voulez plus me voir, mais appelez-moi s'il vous plaît, M. 30 novembre, 23h12. Grégoire. 30 novembre, 23h51. Vous êtes ce que je désire, rien que pour cela, je ne peux rompre je t'embrasse. 30 novembre, 23h57. Je me hais autant que je vous aime. Vous chasser de mon esprit est impossible quand chacun de mes regards vous cherche. J'ai besoin de vous, je n'en peux plus. 1er décembre, minuit 19. Venez, j'ai bu. Venez, je laisse ma porte ouverte. Je suis à vous, je vous attends. Je n'attends que vous, je ne suis qu'à vous. Venez, 18 rue. Deuxième étage gauche, code 31B. Lorsque je reçus ces SMS ou textos, je restais incrédule, pétrifiée. Mon cœur s'arrêta, de battre dans ma poitrine. Je me passais une main tremblante sur le visage. Je n'en croyais pas l'écran de mon téléphone portable. Du regard, je cherchais follement autour de moi un appui, un visage ami, une explication logique, n'importe quel soutien. En vain. J'étais à ce moment-là en train d'acheter des boîtes pour le chat et c'était encore plus grotesque, tout ce décor de supérette. Parce que ces SMS, comment dire ? Comment dire, sans me mettre à hurler de toutes mes forces devant les boîtes de boucher en gelée saveur bœuf, poulet et volaille. Sans exploser de rire comme Lon Chaney, à gorge déployée, à m'en décrocher la mâchoire, à m'exorbiter les yeux, à raser toutes les supérettes du monde. Comment dire quand c'est si affreux à dire ? Car, regarde les heures auxquelles furent envoyés ces SMS. Regarde-les bien. Mémorise-les. Et dis-toi que ces SMS me parvinrent tous en bloc. Les uns à la suite des autres, littéralement en rafale, le mercredi 1er décembre 2004 aux alentours de 14h30. C'est-à-dire le lendemain après-midi. Je les reçus tous, sans exception, plus de 12 heures après. Plus d'une demi-journée après que M me les eut envoyés. Le temps que la Terre fasse un demi-tour complet sur elle-même. Comprends-tu ce que cela signifie ? Réalises-tu ? As-tu la moindre idée de l'atrocité ? De l'ignominie, de la perversité. As-tu une quelconque idée de l'ampleur de la machination ? Une toute petite idée de mon envie de rentrer chez moi, de prendre sur l'étagère mon gamot P800 et de me tirer une balle dans la tête, quand bien même il ne s'agirait que d'un plomb diabolo perforé. Imagines-tu mon sentiment halluciné de l'existence à ce moment-là ? L'innommable, l'impensable, la cruauté pour la vie, le désespoir s'il faut utiliser un mot significatif. Cela, les procédés de la réalité, ce qu'on appelle la réalité. Même Flaubert n'aurait pas osé. C'était trop. Respect, Madame Réalité. Chapeau bas. Le réel n'est jamais décevant. Il est tout ce que l'on veut, mais pas décevant. Je ne vois rien d'autre à dire. C'était tellement. Je n'ai pas de mots. C'était trop. Monsieur le typographe, je vous demande respectueusement de sauter 2 pages, ou même 100, parce que là, moi, tout de suite, je ne peux pas. Je ne peux plus.
Grégoire Bouillet, on entend ici une lecture par Oriane Delacroix de la fin du livre 1, où le narrateur du dossier M reçoit en retard, 14 heures plus tard, une série de SMS que M lui a adressés, où c'est le moment où elle lui explique que bah, c'est bon, il peut venir chez elle après lui avoir fait la cour pendant une période assez longue. Et on trouve cette chose que vous énonciez, que vous commenciez d'énoncer tout à l'heure, qui est que pour vous, la réalité prend le dessus sur la fiction. Enfin, respect, Madame Réalité.
Moi, j'ai vraiment en permanence, et depuis... mais c'est peut-être un mécanisme de défense, mais j'ai vraiment le sentiment que l'imagination a sans cesse plus d'imagination que nous. En permanence. Et c'est prodigieux. C'est-à-dire que... Alors, la réalité... il faudrait s'entendre sur les mots, mais la réalité, ce qui a lieu... n'arrête pas de déjouer sans cesse nos représentations. Le coup de boule de Zidane est un événement commun, mais que tout le monde a halluciné. À la dernière minute du dernier match, de finale, etc., et ce coup de boule hallucinant de Zidane. Voilà.
Et c'est impensable.
C'est impensable, c'est de l'ordre de l'impensable. Et Et ce qui est très rigolo, c'est que un scénariste, un écrivain, un artiste, peu importe, pourrait envisager ça. Mais ce serait ridicule. Ça n'a aucune valeur si c'est imaginé. Moi, il y a une phrase de Chesterton que j'aime beaucoup, qui est que, pour moi, cette imagination de la réalité est des moyens d'en rendre compte, et non pas de l'étouffer, de se croire plus grand que l'imagination de la réalité, qui est pour moi, en fait, la somme de toutes les imaginations qui la composent, la vôtre, la mienne, celle de n'importe qui, augmentée de la sienne propre. Je pense que la réalité a une espèce d'imagination qui est à elle, et qui fait que des choses hallucinantes se produisent, des choses qui nous laissent interdits. Et Chesterton a une phrase que moi j'aime bien, qui est... où il critique un petit peu les romanciers, les littérateurs, la fiction, notamment, en disant « la fiction est à la mesure de l'homme ». Et quand il dit ça, Chesterton, donc écrivain, 19e, les enquêtes du père Brown et tout ça, qui est tout à fait hilarant, mais était profondément chrétien et croyant. Et quand il dit que les fictions sont à la mesure de l'esprit humain, c'est-à-dire à la mesure de l'homme, c'est-à-dire que ça n'excède pas, en fait, l'homme. Et dans l'esprit de Chesterton, comparativement à Dieu. Alors moi, je suis pas du tout croyant. En revanche, j'ai déplacé ma croyance et je crois infiniment au réel, enfin à la réalité et à ce qu'elle manifeste comme miracle d'événements qui sont 9 fois sur 10 traumatisants, hein, évidemment. Mais avant que ce soit traumatisant, il y a d'abord le fait que ça se produise et que ça, c'est une effraction dans l'ordre du monde, dans notre entendement, qui est une espèce de joie. C'est-à-dire que nous sommes pris à rebours, à rebrousse-poil, complètement à l'envers. Je n'aurais jamais pu imaginer que cette histoire d'amour qui a été, je le redis, pardon, importante, puisse s'effondrer uniquement parce que il y a eu un espèce de problème technologique de merde qui est arrivé au pire des moments. Et alors là, ça ouvre plein de questions. Pourquoi ces SMS-là? Avec M, on s'en est échangé un certain nombre. Ils me sont tous arrivés normalement. Et les SMS les plus importants où elle cède, enfin, dans l'idée que, effectivement, je lui ai fait la cour et voilà, et où elle. Et le fait de céder, pour elle, avait, je crois, en tous les cas, une force symbolique immense. C'est-à-dire que céder, c'était renoncer au fait qu'elle allait se marier, puisqu'elle était fiancée, et qu'elle s'engageait, voilà. Enfin, c'était pas du tout anodin, c'était pas un coup. Enfin. Et précisément, ces SMS ne m'arrivent pas. Ils m'arrivent 12 heures plus tard, et évidemment, en arrivant 12 heures plus tard, c'est foutu. C'est-à-dire que M, je ne suis pas venu, je lui ai fait faux bond, et évidemment, elle en tire la conclusion que, enfin voilà, la crise est passée, et plus rien ne sera possible à partir de là. Et quel sens donner à et pourquoi? Et là, il y a une sorte de mystère absolu.
Et vous, votre place d'écrivain, là, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? C'est de commenter et interpréter la réalité et son imagination propre?
C'est d'abord de rendre compte. Avant toute chose, c'est de dire que ça a eu lieu. Que ça a eu lieu en tant que tel. Et alors.
Il faut attester de l'événement.
Voilà. Il faut attester de l'événement, en tant que tel. Et non pas tout de suite. Et je pense que le livre, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans le livre. C'est-à-dire, j'atteste d'un événement. Et après, j'essaie de lui donner des interprétations. Mais on sent bien que j'essaie de donner des interprétations. Les interprétations ne préexistent pas à l'événement. Moi, je ne maîtrise rien du tout dans l'histoire. Je fais partie du tableau. C'est ça qui moi me plaît le plus, et c'est peut-être la gêne que je peux avoir avec un certain nombre de livres, c'est que les gens, on peut décrire des scènes, des événements, etc. Mais on voit pas celui qui écrit à l'intérieur du tableau. Et je pense que c'est primordial de s'y voir soi-même, parce que le tableau est complet si on s'y met soi-même. Et donc moi, il se passe ça. Et moi, je vois bien, alors peut-être parce que j'ai cet esprit-là, je vois bien la catastrophe dont je rends compte dans le livre, enfin, je sais pas ce que je dis après, mais j'entends bien aussi l'espèce de jubilation que j'ai, parce que c'est incroyable qu'un coup comme ça m'arrive.
Et c'est fascinant.
C'est fascinant, voilà. Et moi, je fonctionne vraiment, j'ai vraiment un culte de l'événement, en tant que l'événement n'est pas un événement programmé, enfin c'est pas un blockbuster par exemple qui va faire événement, c'est pas du tout un événement, c'est le contraire de l'événement puisque c'est programmé. L'événement, c'est ce qui fait effraction dans l'ordre des choses. Et ça, c'est juste magnifique, parce que je crois que c'est lié au réel. C'est à un moment donné avoir le sentiment du réel à l'intérieur de la réalité qui est une fiction. La réalité est une fiction. Nous vivons dans des fictions. Là, d'être là, c'est une fiction. Le capitalisme est un récit. Tout ça, c'est une fiction. Une fiction incarnée, matérialisée, il n'y a aucun problème, mais c'est une fiction. Et il y a des choses qui viennent exploser la fiction, qui sont des événements, et qui, à mon sens, témoignent du réel. Et ça, c'est ce qui arrivait à toucher le réel. Moi, ça me... Voilà, je kiffe.
Et dans ces fictions dans lesquelles on vit, il y a aussi des romanciers qui écrivent des romans, donc comme Flaubert dont vous parliez tout à l'heure. Et vous êtes assez sévère, pas avec tous, mais selon l'idée que vous dénoncez le fait qu'ils accomplissent des choix moraux à chaque fois. Et qu'il y a toujours quelque chose qui relève de la morale chez les gens qui écrivent des romans classiques avec énormément de guillemets.
Non, alors d'abord j'essaye d'éviter de dénoncer. Je trouve que c'est la position la plus faible intellectuellement qui puisse exister, celle de dénoncer.
Celle de dénoncer.
Oui. Évidemment, je dénonce comme tout un chacun. Quand je suis devant la télé, ou chez moi, ou dans la rue, peu importe. Il y a plein de trucs que j'ai envie de dénoncer. Mais quand j'écris, j'essaye de, sachant tout ce que intimement, personnellement, intellectuellement, politiquement, tout ce que vous voulez, j'ai envie de dénoncer. Je me prends au mot. C'est-à-dire, c'est ce que je dis ça au début, alors si le langage est le propre de l'homme, prouve-le toi-même, et boudu. Et donc, moi j'essaye de dire, sachant tout ce que je ne veux pas faire, et je reviens à la phrase du début qui était, il y a des choses que je ne veux pas faire. Et je ne vais pas me contenter de dire je ne veux pas faire ça. Je vais essayer de démontrer qu'il est possible de faire autrement, en tenant compte de ce que je ne peux pas faire. Et donc, c'est bon, pour en revenir à l'idée, je pense que c'est juste inhérent à la fiction. C'est-à-dire que si moi j'écris une fiction, il va bien falloir que j'invente la fin. Et cette fin, elle va être nécessairement morale, même si elle est amorale ou immorale. De toute façon, à partir du moment où c'est moi qui suis dépositaire de la fin, je vais lui donner un sens. Or, dans la réalité, il n'y a pas de sens. Il y a juste le constat que quelque chose se produit. Et vraiment, la bêtise, ce serait de dire, c'est Dieu, il y a une immanence qui décide qu'à un moment donné, toi, petit bouillet, tu ne devais pas aimer Mademoiselle M. Voilà, évidemment non. Évidemment non. Donc le piège, c'est d'interpréter, de sublimer ça. Mais par contre, moi, je sublime le choc de l'événement, le choc, la révélation du réel. Dans une fiction, je suis désolé, mais si c'est moi qui raconte ça, je vais dessiner, à un moment donné, Flaubert décide est-ce que ça va marcher ou pas entre Frédéric et Madame Arnoux. Et il se débrouille, il a décidé bien avant, au début où il a commencé à écrire son livre, il sait que ça va merder. Et il se débrouille, et d'ailleurs, c'est une scène absolument ridicule, au moment où ça foire complètement entre Frédéric et Madame Arnoux, d'un seul coup, juste à ce moment-là. Et c'est ridicule parce qu'il surjoue la scène avec une sorte d'excès de vérité. C'est l'enfant de Madame Arnoux tombe précisément malade le jour où elle a rendez-vous avec lui rue Tronchet pour se donner à Frédéric. Et il vomit un parchemin. La scène est un peu apocalyptique, mais on sent que c'est fabriqué. Et pour moi, c'est la limite du roman. Donc c'est pas, parce que c'est inhérent au roman. Le romancier a décidé de la fin donnée, même s'il laisse la fin ouverte. Il est dépositaire du truc. Et l'avantage de la réalité, c'est que moi, je ne suis pas dépositaire de la fin. C'est la réalité, ce qu'on appelle la réalité, une défaillance, un dysfonctionnement de merde d'un opérateur pourri, qui fait que des SMS ne sont pas arrivés, et c'est ça qui a scellé la fin de l'histoire.
Grégoire Bouillet, on entend ici un enregistrement d'un concert de Miles Davis au Châtelet le 3 mai 1982, auquel vous avez assisté et qui est là aussi peut-être une illustration de ce que vous racontez, qui est que donc la réalité est souvent plus forte que la fiction, puisque c'est un concert où les plombs sautent et où tout l'appareillage technique et électrique que Miles Davis utilisait pour ce concert-là ne fonctionne plus. Il se met à jouer de la trompette tout seul.
C'était un moment absolument sublime. Alors, faut préciser que c'est après que Miles Davis se soit interrompu pendant cette année, où il n'avait plus joué. C'est son premier retour en France, avec une musique que moi je trouve moins libre, on va dire. D'abord, c'est Marcus Miller qui a concocté tout l'album et tout ça. Et bon, Miles est un peu sur la fin, mais c'est quand même, Miles fait comme ça, le son de sa trompette, c'est quand même, voilà. Et, évidemment, tout le monde était allé voir ce concert. Enfin, tout le monde, j'exagère, mais enfin, voilà, c'était au Théâtre de la Ville, au Théâtre du Châtelet. Et c'était extrêmement électrique. C'était vraiment très, très puissant. Et la sonopette. Et là, ça a été absolument prodigieux. C'est-à-dire que pendant 20 minutes à peu près, le son qui venait des enceintes déferlait sur le public. Et vraiment, c'est... Et, à partir du moment où les sons ont pété, la sono a pété, et où Miles s'est juste approché en disant bah, pas de problème, il a embouché sa trompette et il a demandé à Minnelli juste de l'accompagner, et il a joué ce qu'on est en train d'entendre en fond. Et là, d'un seul coup, au lieu que ce soit le son qui déferle sur le public, c'est le public qui est monté silencieusement sur scène pour écouter, pour tendre l'oreille. Mais il n'y avait plus personne qui reniflait, qui toussait, qui parlait. C'était un moment de magie pure. Bon, c'est des mots un peu cons, mais quand même, c'était très, très beau. Et il a fallu que ce soit un accident qui produise cet événement-là. Voilà, un accident qui n'était pas prévu, un accident technique. Et Miles se met complètement à la hauteur de l'événement. Il n'y a aucun problème. Je vais vous improviser ce morceau-là, a cappella, sans tout le dispositif autour. Et ça a été absolument magnifique.
Il y a une réflexion qui court un peu dans tout le dossier M, c'est une réflexion autour de ce qu'on pourrait appeler des formes d'héroïsme. Contre quelque chose, une situation qui est à peu près désespérée, vous parlez notamment de l'équipe de handball féminin qui arrive à gagner en finale contre les Hongroises de Coupe du Monde.
Ouais, ouais.
Et sublime, on trouve moment. Toujours des moments qui relèvent du sublime, mais où il y a une forme d'héroïsme qui se déclenche chez les gens à un moment où on croit que tout est perdu et quelque chose se passe. Est-ce que vous diriez que c'est de l'héroïsme ?
J'y avais jamais pensé comme ça, mais je pense que vous avez raison. Je pense qu'il y a un vieux fond héroïque chez moi, qui vient certainement de ma culture et des représentations de ma culture du temps où je regardais Zorro à la télévision. Et qui a complètement façonné un certain rapport au monde où le héros est brave. Enfin, c'était pas l'anti-héros. Et c'était pas la pourriture de héros après les années Dallas et tout ça, enfin, où maintenant un tueur en série, Dexter, je pense à lui d'un seul coup, voilà, où le héros est un tueur en série. Enfin, pour moi, je viens d'un temps, désolé, je me fais vieux, mais où le héros était incarné des valeurs incroyablement positives, rigolardes. Voilà, et je pense qu'il m'en reste quelque chose, enfin une sorte de posture héroïque, voilà, même si intellectuellement je peux faire la critique de ça, aucun problème pour en faire la critique, évidemment. Il n'empêche qu'effectivement,
j'ai... Ça relève plus du moment, c'est des moments où les gens sont héroïques.
Zorro n'était jamais Zorro tout le temps, il était Zorro uniquement lorsqu'il le fallait. Et c'est ça qui est très rigolo aussi, c'est-à-dire que dans la perception que moi, enfin, ce que ça m'a appris à mon insu évidemment, mais j'en ai retiré quelque chose parce que voilà, qui était que on est héros au moment où il le faut, au moment où il se produit quelque chose, où il y a une menace, où il y a quelque chose. Et là, on est héroïque. Le reste du temps, on est Don Diego de la Vega, c'est-à-dire une pauvre cloche, voilà. Mais à un moment donné, et c'est vrai que moi, je crois que j'aime bien les héros, enfin, de façon très bienfaisante, j'ai envie de dire. Enfin, moi, ça me fait du bien, quelqu'un qui démontre un héroïsme, c'est-à-dire qui combat le pouvoir, qui combat l'oppression, qui combat, voilà, au moment où il le faut, et qui n'est pas dans une posture. C'est-à-dire qu'il va pas capitaliser, attention, c'est moi le héros, et tout ça, quoi. Enfin, voilà. Donc, oui, c'est intéressant, et c'est vrai que ces handballeuses françaises, elles ont été ce sont des héroïnes à ce moment-là. C'est ce qu'elles font. Mais alors, est-ce que ça leur appartient exactement? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a héroïsme à un moment donné? Est-ce que c'est juste à la force des poignets qu'on le devient? Est-ce que c'est juste une histoire de volonté? Je ne le crois pas. Je pense qu'il s'est passé quelque chose qui procède des choses qui se produisent dans la réalité. Et parfois, ce sont les êtres humains qui produisent cette chose-là. C'est pas juste la réalité qui la produit. Ça peut être aussi les êtres humains, oui.
Il y a aussi un moment où vous critiquez un certain nombre de personnages de fiction en disant que on a un problème, c'est que les personnages de fiction sont souvent un peu débiles. Enfin,
ils sont complètement débiles. Non, mais il faut quand même se rendre compte. Alors, on les adore. Enfin, moi je suis un grand fan de séries télé et tout ça. J'adore. Mais quand même, il y a une phrase comme ça dans le livre. Ils s'éclairent intellectuellement à la bougie, c'est-à-dire que ils sont au courant de rien. C'est-à-dire, de l'autre côté de l'écran, ou du bon côté de l'écran, ou du mauvais, j'en sais rien, mais en tous les cas, on en sait infiniment plus qu'eux. Citez-moi un seul personnage de fiction qui soit au courant, pour Freud, pour Darwin, pour la relativité générale, pour, la génétique, l'ADN, Trump, et en fait, ils sont complètement abrutis intellectuellement. Et c'est tout à fait étonnant parce qu'en fait on s'identifie à des gens qui en savent vachement moins long que nous. Et donc il y a une sorte de truc qui est très très bizarre parce qu'en même temps ils augmentent notre conscience du monde, mais à partir d'une ignorance. Enfin, et moi ça m'arrive quand même de pester sur la. Enfin, je vois un mec, je dis mais non, mais attends, mais c'est pas possible que tu fasses ça quoi. Et en fait. Donc il y a une espèce de critique un peu ironique. Enfin c'est pas une critique foncière, mais c'est une façon de dire que moi, vous, nous ne sommes pas des personnages. C'est ça surtout l'intérêt de dire ça, c'est que on peut avoir tendance à s'identifier à des personnages, mais en fait ils sont quand même relativement débiles et incultes. Et par comparaison, nous ne sommes pas des personnages. C'est-à-dire que nous avons une complexité, que ce soit en termes de culture, d'information, de conscience, des choses, de nous, des autres, etc., qui fait que nous sommes beaucoup plus riches réellement que n'importe quel personnage de fiction. Et donc, je trouvais ça super rigolo. C'était une façon de dire « je ne suis pas un personnage de fiction ». La preuve, c'est que quand tu regardes les personnages de fiction, ils sont quand même tous un peu débiles.
L'événement de la pop culture qui est porté par les Beatles, qui peut être symbolisé par la pochette de leur album Sgt. Pepper, c'est de dire que tout ce qui a précédé dans l'histoire, tout ce qui était bon peut être dit pop. En fait, c'est un prisme d'évaluation de la qualité de la culture humaine, non plus sur des bases académiques ou des bases de réflexion, on va dire, d'experts, mais sur leur impact profond dans l'âme de l'auditeur, du spectateur ou du lecteur. Et par populaire, il faudrait pouvoir arriver à entendre, et je ne sais pas si c'est très très simple à définir rapidement, mais par populaire, quelque chose qui ne t'informe pas de l'extérieur, de ce à quoi tu dois ressembler, mais qui essaye de montrer à l'intérieur que tout ça est déjà en toi. Donc à ce niveau-là, on peut aller jusqu'à dire que Platon est absolument pop. Mais bon, chez les Beatles, déjà, on voit que pour eux, Oscar Wilde, Carl Gustav Jung sont pop. Lewis Carroll est pop, Laurel et Hardy sont pop. Et si on en infère de leur culture propre, à savoir chez Lennon l'importance de Joyce, on peut dire que Joyce aussi est pop. Grosso modo, est pop, ce qui n'est pas dicté d'en haut par des hommes de pouvoir. Voilà.
Grégoire Bouillet, on entend ici la voix de Paco Mthielman, une archive de 2014, où il donne sa définition de la culture pop. Et on peut lire aussi le dossier M, parmi les mille dimensions qu'il peut avoir, comme une espèce de grande enquête sur ce que c'est que la culture pop, ou ce que c'est en tout cas d'avoir grandi dans un univers pop. Comment vous la définiriez, vous?
Alors, deux choses. J'ai juste envie de revenir sur sur cette histoire de pochette de Sgt. Pepper. Moi, quand j'étais, à partir de 13-14 ans, j'écoutais Frank Zappa. Et l'un des tout premiers albums de Frank Zappa, qui s'appelle We Only Need for the Money, reproduit en la parodiant et en se foutant de la gueule de la pochette de Sgt. Pepper. Et ce qui m'a toujours fait rigoler, c'est que les Beatles ont fait un procès à Zappa. Et donc, culture pop, d'accord, ok. Je suis plutôt Zappa que Beatles, on va dire. C'est-à-dire que bon, bref.
On a chacun la sienne.
Oui, on a chacun la sienne, mais moi j'ai toujours D'abord, j'ai adoré l'album. Et bien, au lieu de mettre des beaux parterres de fleurs, c'est des navets, enfin des trucs. Voilà. Et vraiment, ils ont interdit la pochette. Ils ont réussi. Au lieu que ce soit la pochette, ça a été l'image intérieure du disque. Comment dire ? Ça procède toujours un peu de mon fonctionnement, c'est-à-dire que Dante, Beckett, Don Quichotte, Flaubert, Bach, c'est une partie de mon sentiment du monde qui m'est venu par la culture. Zappa, Nirvana, le Club des Cinq, tout autant. Il n'y a pas de séparation. Et moi, je tenais, encore une fois, j'ai l'impression que j'obéirais à un plan préétabli, mais pas du tout, ça fait partie d'un sentiment général qui se déploie, qui fait que tout ça fait partie de ma culture pop intègre, enfin ma culture, en tous les cas, intègre la culture dite populaire comme la culture dite élitiste. Et pour moi, il n'y a pas de différence à mon niveau individuel. Il n'y a pas de différence puisque c'est mes acquis entre l'émotion que j'ai de Beckett ou de Bach ou celle que j'ai des Rolling Stones ou de Zappa ou du Club des Cinq ou des Mémoires d'un âne. Tout ça définit ma culture. Et je suis toujours embarrassé lorsque les gens revendiquent l'un ou l'autre pôle de la culture. Parce que c'est un mensonge absolu, c'est encore une séparation. Et je pense que le livre lutte beaucoup contre les séparations. Il essaie en permanence de si ce n'est de réunir ou de réconcilier, mais en tous les cas de faire exister tous les côtés de... Enfin, c'est très cubiste dans ce sentiment-là. C'est-à-dire, le bien, oui, mais le bien fait du mal aussi, et le mal arrive parfois à faire du bien, et tout ça. Enfin, voilà. Et donc... Associer Bach et Zappa, pour moi, c'est absolument cohérent. Il n'y a pas de séparation, et c'est une séparation complètement artificielle qui maintient le monde. Peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais pour moi, c'est un livre qui a un engagement politique de fond, enfin, qui a une colère aussi sur la façon dont les choses se passent, dont ce que nous devenons malgré nous, le fait qu'on dit, et tout le monde aujourd'hui dire « je profite, je gère », qui est vraiment une sorte d'appauvrissement de la langue, une moralisation de la langue, une épuration de la langue. Voilà, en fait, c'est lutter contre tout ça, mais lutter de façon active, c'est-à-dire de démontrer que il s'agit pas de le dénoncer, parce que ça n'a pas de sens de le dénoncer, parce que je veux dire, alors il faudrait, alors je vais finir par comme tout le monde par dire il faudrait faire ceci, nous devrions faire cela, c'est du bullshit quand même ça. En revanche, démontrer qu'il est possible de parler autrement, de faire tenir à la fois Beckett ou Donald Westlake par exemple, auteur de Polar, ensemble, et que c'est cohérent, ça me semble plus actif pour démontrer qu'on n'est pas voué à des séparations ou à des déterminismes qui sont ceux de notre époque.
C'est un livre aussi qui témoigne, oui, politiquement, d'une certaine inquiétude à l'égard des générations futures. Et la question des enfants, et comment aussi l'industrie culturelle, ou en tout cas le monde dans lequel on vit, tout simplement, est en train de changer des choses, notamment dans le cerveau des enfants et dans l'appréhension du monde, tout simplement.
Oui. Enfin, inquiétude. Alors, en même temps, moi, je me récupère parce que, je sais pas, à chaque fois, c'est-à-dire, quand on écrit, enfin, en tous les cas, quand j'écris, j'essaye aussi de me contester. Je trouve très important de me contester. Donc, je peux avoir... Voilà, une inquiétude, notamment sur... il y avait une émission qui était passée sur France Culture, Sonia Kronlund, là,
je me souviens, Les
Pieds sur Terre, qui était enfin, émission remarquable par ailleurs, où c'était des enfants, des élèves, des collégiens, des lycéens, je sais plus, qui donnaient leurs sentiments sur la cérémonie, le film de Chabrol. Et c'est pas tant mon inquiétude que ce que disaient ces jeunes gens d'aujourd'hui faisait peur. C'est-à-dire qu'ils en arrivaient à penser que les deux personnages joués par Sandrine Bonner et Isabelle Huppert qui finissent par tuer la famille bourgeoise, etc., ne sont vus qu'à travers un prisme individuel de bien et de mal. Et toute la dimension sociale, l'oppression sociale, qui consiste à un moment donné, il y a des opprimés qui sont des pauvres gens avec des gens qui sont des oppresseurs très gentils, et c'était ça ce pourquoi le film est intéressant, c'est-à-dire que les oppresseurs sont très gentils, la famille bourgeoise est très gentille, très, on va même, voilà. Et l'absence totale de conscience politique, moi qui viens d'une époque des années 60-70 où la conscience politique était quand même assez forte, voilà. Et en même temps, une fois que j'ai dit ça, je fais un paragraphe sur ma fille pour dire qu'elle est, que c'est pas fini, que ma fille, elle pense pas comme ça exactement, ou elle pense autrement, et elle me prend, elle me dit arrête de faire ton poste 68 heures à la con et tout ça. Donc je ne détiens pas la vérité. Je pense que tout le monde est inquiet en fait, en définitive. Enfin voilà, mais qu'il y a plein de choses. Je sais pas comment répondre. Je suis embêté par l'idée de l'inquiétude. Je trouve que c'est un
souci en tout cas.
Il s'agit de savoir dans quel monde on vit aussi. Et est-ce que ça m'inquiète? Est-ce que c'est un sentiment? C'est peut-être que c'est ça qui me gêne dans le mot inquiétude. C'est que je pense pas que ce soit un sentiment. C'est plutôt un constat. Ces gamins qui parlaient de la cérémonie, c'est un constat. Est-ce que ça m'inquiète? Oui, mais c'est pas le sentiment dominant, c'est un constat. Est-ce que ça engage à un moment donné à ce qu'il faudrait faire autrement? Chacali, moi je le pense. Mais je suis pas plus inquiet. J'imagine que, je sais pas, si j'étais né dans les années 30, j'aurais été inquiet aussi. Enfin, le mot inquiétude ne me va pas. Enfin, c'est juste le mot inquiétude. Le constat me va très bien. Le constat d'une société vraiment qui va très très bien en tant que telle. C'est-à-dire qui va d'autant mieux que les gens vont mal. Ça, oui. C'est pas que ça m'inquiète, c'est que j'abomine ça.
Merci.
Non, merci à vous.
Grégoire Bouillet. Le dossier M, livres 1 et 2, il est publié aux éditions Flammarion. Les temps qui courent, quel héros?
Zorro. Je suis désolé. Don Quichotte. Allez, tiens, Don Quichotte, on va changer.
Par les temps qui courent, la vie privée, vous y croyez?
Comment la phrase, la réponse bête, privée de quoi? Privée de tout.
Par les temps qui courent, aime comme quoi?
Aime comme la vie.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec la metteur en scène Anne-Cécile Van Dalem. Le dossier M, livres 1 et 2, est publié aux éditions Flammarion. On peut en lire plusieurs extensions aussi sur un site à l'adresse ledossierm.fr. On peut aussi réécouter l'atelier fiction qui a été enregistré à la Maison de la Poésie, extrait d'une performance de lecture de 10h par le comédien Laurent Poitrenaud. Ce soir au son, c'était Florent Bujon, Milena Hellig à la réalisation, Oriane Delacroix, Jeanne Aléos et Corinne Amar pensent cette émission avec moi. My head.